1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout sur Canal B. On est ensemble comme tous les jours, du lundi au vendredi de 16h30 à 17h40. Les rediffs, c'est du mardi au samedi matin de 8h30 à 9h40. Comme c'est le dernier vendredi du mois, eh bien, c'est le retour de Champ Libre à cette carte blanche donnée à une invitée sur Canal B qui va piocher au rayon musique, cinéma et danse du pôle 2 de la bibliothèque des Champs Libres et nous ramène des documents qu'elle nous présente aujourd'hui. Dans quelques instants, Lionel Bénard, historien, guide conférencier, auteur et aussi un des co-fondateurs du label Rennais 3615 Records. On se baladera un peu partout dans le monde et on ira jusqu'en Afrique du Sud en passant par le Brésil ou les Antilles. Et puis pour débuter l'émission Le Grand Tout, comme depuis le début de la semaine, eh bien, un extrait de notre album Disque d'Or de la semaine, le premier album Zeitgeist Impressions pour des punks au cœur tendre qui aiment autant la power pop que le punk rock 77. C'est le groupe Foot Fight. On écoute une dernière fois un extrait de cet album qu'ils donneront en release party le 4 octobre prochain aux Ateliers du Vent. C'est le titre Dopper Love. Bonne émission.
Done.
l'émission Le Grand Tout sur Canal B, une fois par mois, le dernier vendredi du mois. Eh bien, on renoue avec cette session lancée, initiée l'an dernier en partenariat avec les Champs Libres. C'est Champs Libres à un invité, une invitée qui, pendant une heure, nous balade à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres avec 10 documents empruntés dans cette même bibliothèque, entre livres, CD, films, vinyles, et nous parle, cet invité, de sa vie, ce qui l'a inspiré, ce qui l'a marqué, ce qui l'a nourri. Aujourd'hui, eh bien, pour cette saison 2, épisode 1 de Champs Libres A, discuter avec Lionel Bénard. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Lionel, que vous connaissez peut-être, même si vous ne l'avez jamais rencontré, ce qui est assez étonnant, si vous ne lui avez jamais parlé, lui vous a peut-être parlé dans une visite dans un quartier de Rennes peut-être ou ailleurs, puisque tu as beaucoup beaucoup d'occupations, tu as été guide conférencier, tu l'as encore un petit peu, tu es enseignant aussi en histoire de l'art en Bretagne à l'université du temps libre, tu es aussi évidemment co-créateur du label 3615 Records, tu es auteur de deux bouquins différents l'un de l'autre, même si l'un a quelques échos avec l'autre, sans doute, c'était le premier, eh bien, ce musique ultramarine, trésor discographique des Caraïbes, océan Indien et Pacifique. Et forcément, on peut déceler aussi dans la mortelle grenouille, eh bien, quelques souvenirs aussi des Caraïbes, des Antilles, à travers le Hot Club de Rennes, dont tu parles un peu, et puis que vous avez réédité avec le label 3615 Records. On a beaucoup de choses à évoquer avec toi aujourd'hui, plutôt des histoires de musique, des histoires de vie, des histoires de musiciens, des histoires de ta vie à toi aussi pour commencer sans doute. Tu viens d'où Lionel en fait? Ta famille, elle était basée où? Elle est basée où?
En fait pour le coup je suis né à Rennes et je suis originaire non pas de Rennes mais de la campagne rennaise. Je suis originaire du coin Mordel-Saint-Très-l'Heureux à l'ouest de Rennes où j'ai grandi. Je ne suis rennais depuis mes études, à la fin du XXe siècle.
Ce que j'ai évoqué sur quelques infos biographiques te concernant, tu sens un moment où tu sais déjà vers quoi tu vas le diriger, tu sais que la musique et l'histoire et les histoires vont prendre une grande place dans ta vie?
Assez tôt, c'est vrai que la musique et l'histoire, les visites de sites patrimoniaux ont très rapidement été des choses qui me passionnaient. C'est surtout à partir de la découverte de certaines musiques au moment de l'adolescence que je me suis plutôt orienté vers ces passions-là. Et aujourd'hui, c'est toujours un peu le cas. J'ai l'impression d'être toujours orienté vers deux pôles d'intérêt de façon professionnelle et passionnelle. C'est les musiques d'un côté et puis l'histoire de l'art, le patrimoine de l'autre. Et il y a quelques moments magiques où les deux se rejoignent. Donc c'est ce qui peut être très intéressant.
La musique arrive dans ta vie plus vite que l'histoire de l'art peut-être en tant qu'objet que tu vas fréquenter régulièrement. Le patrimoine, certes, tu le dis, tu le visites, mais tu vas peut-être pas lire des livres tout de suite sur le patrimoine. Est-ce que la musique arrive plus tôt?
Effectivement. Et justement, je pense que c'est le biais de m'intéresser notamment à la lecture liée à la musique qui m'a orienté vers l'art plus en... de façon plus générale, mais effectivement, c'est d'abord une relation totalement passionnelle avec la musique qui m'a orienté vers ce champ d'activité.
D'après ce que je disais tout à l'heure, vous avez peut-être compris qu'on va se balader dans ce Champs Libres à Lionel Bénard aujourd'hui, pas seulement à l'étage 2 des Champs Libres, mais dans les Antilles, on ira au Brésil sans doute, on ira dans le sud des États-Unis, on ira ailleurs encore peut-être, en Afrique, on ira partout.
Effectivement, je relis beaucoup l'intérêt pour la musique aussi au voyage, alors quelquefois ils sont pas forcément réalisés mais fantasmés. Je trouve que ça fait partie aussi de l'intérêt pour les musiques d'ailleurs, l'ailleurs en un grand tout. Et par exemple, j'ai jamais été aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, mais ça me passionne quand même.
Puis tu voyages en lisant et en écoutant de la musique aussi.
Voilà, il y a même des disques que je trouve qui Je pense par exemple à des disques de Miles Davis sur l'Espagne où on a l'impression qu'il a jamais été, il connaît mal, mais ça donne des univers un peu fantaisistes qui sont également extrêmement intéressants avec des voyages fantasmés.
Ces voyages fantasmés, peut-être que tu en fais déjà adolescent en écoutant quelques premiers émois musicaux. Qui sont les prescripteurs, les passeurs autour de toi, la famille, les bibliothèques, les copains?
Un peu tout ça. À la fois, moi je suis plutôt quelqu'un qui est grandi enfant avec le médium vinyle que j'ai abandonné. Donc moi je suis né en 79, mon adolescence c'était les années 90 et je sais que tous les gens de ma génération ont vécu à peu près la même chose, c'est qu'on a abandonné plutôt le médium du vinyle pour passer au CD et puis quand on avait moins les moyens, la cassette piratée, copiée. Donc c'était plutôt ces deux médiums-là. Enfin, j'ai eu l'occasion, mes parents avaient des disques de musique qu'on appellerait de musique du monde aujourd'hui. Donc j'en écoutais déjà. Et puis c'est surtout à l'adolescence, par le biais, c'est souvent le cas dans les familles, il y a plusieurs enfants, d'un grand frère qui écoutait du rock, des groupes... Moi, pendant qu'avec mes amis au collège, on écoutait plutôt ce qu'étaient les sons de l'époque, c'est-à-dire Nirvana, par exemple, ce genre de choses... mon grand frère écoutait plutôt du rock des années 60-70 et par imitation fraternelle mais aussi par très rapidement par passion pour ces petites découvertes, je suis tombé assez longtemps, assez durablement dans le rock psychédélique anglais, américain, le folk aussi des années 60-70. C'est une passion qui m'a tenu longtemps. Je me suis assez vite différencié quand même des disques jalons que me proposait mon frère. Je me suis un peu singularisé, mais c'est surtout par ce biais-là que je suis rentré dans mes premiers émois musicaux.
Vous aurez reconnu la musique assez incroyable du groupe Pink Floyd sur leur premier album The Piper at the Gates of Dawn, avec sa pochette complètement éclatée, comme l'intérieur du disque d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a plu, Lionel, dans cet univers-là, qui mélange voyage dû aux psychotropes, sans doute, et puis voyage dans l'histoire de l'Angleterre, de la musique du monde. Qu'est-ce qui t'a plu ?
À peu près les éléments que tu viens de citer, là, effectivement, contrairement aux autres disques de Pink Floyd, pour rappel aux auditeurs, le leader s'est un petit peu écarté lui-même du succès. Il s'est fait renvoyer en fait par ses amis. Il était plus capable de suivre la cadence, mais c'était quelqu'un d'extrêmement inspiré. Donc ce qui plaît beaucoup, c'est le côté un peu suranné. On a l'impression d'entendre quelque chose d'enfantin, de très très fragile, très cristallin, mais en même temps qui puise des ressources dans la littérature de Tolkien, par exemple, même si on le reconnaît pas tout de suite à la première écoute, mais il a un univers de gnomes, de personnages fantaisistes, mais également de l'Angleterre plus ancienne. Et donc, de fil en aiguille, on écoute cette musique et on s'intéresse forcément à l'histoire de l'Angleterre, de son art, de son patrimoine. Et ça, en tout cas, ça a été le cas pour moi. J'éprouve le besoin, quand je découvre un artiste, c'est une relation un peu passionnelle, de lire tout ce qui a pu être écrit à son sujet. Ça a été le cas pour Syd Barrett. Alors depuis, la bibliographie sur Syd Barrett, elle est devenue beaucoup plus opulente qu'à mon l'époque où je m'y intéressais. Mais en tout cas, il y a forcément des liens avec l'histoire et l'art qui s'opèrent, surtout sur cette période de la fin des années 60, où Syd Barrett et ses copains de Pink Floyd, ils venaient d'écoles d'art. C'est des choses qui m'ont sensibilisé au moment de choisir une carrière, mais un domaine de prédilection. C'est grâce à ces groupes et à cette contre-culture anglaise et américaine que je me suis intéressé à l'art.
Tu le disais, Syd Barrett a dû partir du groupe. Il a un petit peu usé, sans doute abusé un petit peu trop de drogue notamment, mais c'était peut-être pas seulement ça non plus. Il avait un esprit peut-être trop libre pour rester dans le cadre d'un groupe.
Ouais, je pense qu'il avait des soucis que j'aurais du mal à évaluer, mais plus important que sa consommation outrancière de psychotropes. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il a quand même continué à être musicien dans les années qui ont suivi, les auditeurs connaissent peut-être le disque suivant, qui est un disque en solo. Alors tout à l'heure j'ai dit que ses copains l'avaient viré, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. La preuve, c'est qu'en fait les musiciens de Pink Floyd ont soutenu le projet du premier disque de Syd Barrett, qui s'appelle The Madcap Lofts, et qui est passionnant, parce que j'ai toujours l'impression que ce sont des esquisses de chansons pas tout à fait terminées, mais ça leur donne un charme pour quelqu'un qui est sensible à ce côté inachevé, qui est vraiment très fort.
Il y a dans les documents que tu nous fais découvrir aujourd'hui dans Champs Libres, un livre emprunté à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres, c'est celui de Philippe Robert aux éditions Le Mot et le Reste. Rock Pop, un itinéraire bis en 140 albums essentiels. Alors là, vous irez plutôt du côté des génies parfois un peu méconnus quand même de la musique anglo-saxonne, surtout, peut-être pas seulement, mais rock pop quand même, on voit où on va peut-être. Alors Syd Barrett, d'accord, Tim Buckley, Scott Walker, Captain Beefheart, des noms qui sont pas forcément les premiers dans les chiffres de vente de musique ou dans les disques empruntés dans les bibliothèques peut-être, mais toi c'est vers ceux-là que tu vas aller par la suite.
Oui, je pense que c'est peut-être lié à l'adolescence, mais au moment où on forme ses goûts, on est nombreux, je crois, à essayer de trouver des choses un peu moins connues, on essaie de trouver son originalité. Pour moi, ça s'est opéré par des choix. Alors, les Rennais connaissent bien Rennes Musique, ou chez les disques à Rennais, j'essayais de trouver les choses. Le mot pointu me gêne, mais les choses, à partir du moment où on avait découvert un artiste, on essayait d'aller un petit peu plus loin. Et effectivement, alors, le livre de Philippe Robert est sorti après cette période que j'évoque, mais on retrouve d'ailleurs, je parlais de Madcap Lofts, je me rends compte en parlant qu'il est en couverture du livre. C'est un itinéraire d'artistes qui n'ont pas forcément eu un succès commercial très fort, mais qui ont réalisé des disques très influents. En tout cas, il y en a une partie que j'écoute assez régulièrement. Et j'ai eu la chance pendant mon adolescence et le début de mes années d'adulte de rencontrer des amis et un des ciments de notre amitié, c'était le goût pour ces artistes, qui n'étaient pas les goûts dominants des gens de notre génération. Du coup, ça avait un double effet, c'est qu'à la fois, ça fortifiait notre volonté de faire découvrir des artistes entre nous un peu... intime, et puis par contre malheureusement ça ne permettait pas de participer à des passions communes que mon époque a plutôt eu pour le hip-hop ou le rock français de Noir Désir par exemple, des choses comme ça. Quand Philippe Robert a sorti ce livre donc il y a au début des années 2000 il me semble, je suis allé directement au Champ Libre, justement. C'était, il me semble, que c'était l'une des premières conférences de ce type qui était organisée dans la nouvelle salle de conférence des Champs Libres. La manière dont il présentait les disques m'a également passionné et j'ai formulé le vœu, peut-être à l'époque totalement abstrait, d'essayer d'en faire un peu un livre équivalent pour une musique qui m'intéresserait plus tard, ce qui est arrivé un peu plus tard.
On en parlera un peu plus tard aussi dans ce Champ Libre, mais oui, en 2022, tu feras paraître ce bouquin en fait.
Oui, sur un sujet totalement différent, mais sur le même principe, parce que je le trouvais très bon et Philippe Robert a le talent de très bien chroniquer ses disques et d'avoir envie d'en écouter d'autres.
Ce livre sur les musiques ultramarines aux mêmes éditions, le mot il reste. On en parle tout à l'heure avec Lionel Bénard, mais là on va parler d'un autre musicien vers aussi une musique peut-être qui n'est pas si populaire que ça dans ta génération autour de toi, mais quand même... Il y a plusieurs amis autour de toi avec lesquels vous écoutez du jazz.
Alors, on écoute du jazz, mais effectivement, on le fait, en tout cas pour ma part, on le fait en essayant de passer... en fait, ma génération, on est quand même à une époque où le jazz n'est pas dans sa plus grande apogée. Et on va la découvrir avec on essaie de passer par les disques les plus mythiques, comme par exemple, j'ai un bon exemple, c'est le fameux Kind of Blue, ce type de disque que tout le monde vénère à l'époque. Mais en fait, moi j'ai l'impression de l'écouter de façon passive et à l'époque, je le fais en faisant une autre activité. J'ai pas une écoute très active du jazz et je pense qu'elle est normale alors que pas du tout. Et ma découverte du jazz, elle se fait plutôt... à l'occasion à la fin de l'adolescence, on passe les premières vacances entre amis en Bretagne. On a la chance d'aller les passer sur la côte. Avec mon groupe d'amis, on choisit d'aller à Quiberon. On fait la fête dans les bars notamment. Nous, on cause rarement de musique finalement parce qu'on a conscience que nos goûts musicaux sont quand même relativement singuliers. À l'époque, on écoute Soft Machine, Gong, Zappa, des choses comme ça. Les gens de notre génération n'en écoutent peu. Et un soir, dans un bar, surprise, après une blague d'un de mes copains, un type qui passe ses vacances là, qui a une dizaine d'années de plus que nous, au contraire, rentre totalement dans notre délire et on cause longtemps de goûts musicaux communs. Et la soirée solde par le don d'une cassette. Pour les gens de ma génération, c'est important de se donner une cassette. Il nous donne une cassette d'un artiste de jazz qui s'appelle Barney Whelan et l'album s'appelle Moshi. En quelques mots, c'est un ovni un peu ce disque, puisque c'est le compte-rendu d'un voyage en Afrique fait par un jazzman confirmé. Barney Whelan, c'est un des plus grands saxophonistes de sa génération. Son idée, c'est de traverser l'Afrique du Maroc jusqu'à Zanzibar, d'improviser avec des musiciens africains et de ramener un disque. Mais ça se passe pas exactement comme il le souhaite. C'est une véritable catastrophe financière. La plupart des gens quittent le projet. Il a du mal à relier Zanzibar. Il ramène des bandes d'enregistrement de musiciens de type un peu traditionnel, ethnique, et puis des improvisations au saxophone. Mais ça suffit pas à faire un disque. Ce qui fait qu'avec sa compagne en Suisse, ils vont compléter des titres par des chansons avec des chœurs féminins et ça donne un objet vraiment intéressant. Au départ, nous, on rentre plutôt par l'aspect musique du monde dans le projet. Et puis en fait, moi, je me rends compte assez rapidement que ce qui me fascine le plus, c'est les parties improvisées au saxophone. Et en fait, à partir de ce disque, je deviens un vrai fan de jazz. Thank you.
l'album Moshi, Marnie Williams et d'autres musiciens qui l'entourent. On peut le trouver facilement, ce disque, aujourd'hui?
Alors, pendant très longtemps, pas du tout. Je l'avais même trouvé, je l'avais vu au Puce de Saint-Ouen à un prix totalement exorbitant, et puis on doit au label et disquaire parisien Disque Continu de l'avoir sorti il y a maintenant 10 ans dans vraiment des superbes conditions. Ils ont reproduit la pochette d'origine. Caroline de Binderne, la compagne de Barney Whelan à l'époque de ce voyage, qui chante également sur le disque, elle a également sorti un disque avec les bandes qui restaient, ce qui fait qu'il y a un Moshi 2 aussi. Donc vraiment, si les gens s'intéressent à cet ovni musical qui touche au jazz mais aussi aux musiques traditionnelles africaines, je vous encourage à écouter ces deux disques.
On discute avec Lionel Bénard, notre invité aujourd'hui dans Champ Libre A, premier épisode de la saison 2. Tu as pu le trouver, donc, ce CD à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres. Donc, on n'est pas obligé de l'acheter pour l'écouter aujourd'hui.
Non, il y a effectivement les bibliothèques que j'ai, moi aussi, on le disait en début d'émission, beaucoup consommées, entre guillemets. Et Moshi est trouvable à Rennes, notamment.
On retrouve beaucoup de livres dans ta sélection, enfin trois, mais ils sont assez conséquents, ces livres. Ils sont épais, ils sont denses, ils racontent des histoires longues et importantes pour la musique, mais pas que, sans doute, mais beaucoup pour la musique. Et parmi ces livres-là, une somme sur le musicien de jazz américain Bud Powell. Et on préparait l'émission et tu me disais l'importance en fait de ce livre en ce qui te concerne autour de la musique de jazz et même de la littérature en général.
Ouais, parce qu'effectivement, je l'ai sous-entendu un peu tout à l'heure, mais je suis passionné par tout ce qui est littérature qui touche à la musique. Alors je peux même m'intéresser à des livres liés à la musique, mais pour des musiques pour lesquelles j'ai pas un intérêt particulier, mais tout ce qui est articulation entre musique et voyage et littérature m'intéresse, et ça c'est une découverte assez récente, mais je crois que j'ai rarement lu un livre aussi émouvant sur la relation entre un passionné de musique et un musicien. Donc c'est un livre de Francis Podras qui s'appelle La danse des infidèles. En fait, ça reprend un des titres de Bud Powell. Le sous-titre du livre, c'est Bud Powell à Paris, et je recommande à n'importe qui de le lire, même pour les gens qui n'aiment pas le jazz, parce que c'est une histoire assez fascinante. En fait, Podras n'a jamais rencontré Bud Powell avant le début du livre, mais il est complètement fou de sa musique. Et il se trouve que Bud Powell, après bien des années d'enregistrement et d'une vie un peu dissolue, comme beaucoup de jazzmen aux États-Unis, atterrit à Paris. Il est au bout du rouleau. Alors on découvre au fil, pour le coup ça rappelle un peu l'histoire de Syd Barrett, on découvre au fil du récit qu'il est en prise avec des soucis psychologiques plus importants que son rapport au psychotrope ou à l'alcool. Et ce qui est vraiment très émouvant, c'est qu'on se rend compte que Podras, il finit par le rencontrer, et puis il va quasiment tout sacrifier pour le remettre en selle. Et donc je vais pas raconter la fin du texte, mais c'est vraiment une histoire incroyable d'amitié. Ils deviennent très proches. Bud Powell s'en souvient même au soir de sa vie. On a du mal à y croire au début, mais il réussit à le remettre sur le sentier de la musique. Il va en fait sacrifier jusqu'à son couple. Tout son salaire y passe. Le livre est assez éprouvant et très émouvant. Et donc, j'ai rarement lu des textes aussi intéressants et passionnants sur le rapport à la musique. Et en même temps, on apprend des choses sur Paris et le jazz dans les années 50.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train then. You came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards.
Vous écoutez Canal B dans le Grand Tout, Chant Libre à Lionel Bénard, qui nous faisait entendre, donc, après nous avoir parlé d'écrivains qui s'intéressent à la musique, et bien nous a fait entendre un musicien qui écrit de la littérature et qui l'a dit et qui la chante. C'était bien sûr Leonard Cohen. Là, ça arrive à quel moment dans ta vie d'auditeur et de fan de musique?
Alors, ça arrive dès l'adolescence, dans la période que j'évoquais au départ de cet intérêt pour les années 60. Leonard Cohen, comme beaucoup de gens, je pense, m'a touché beaucoup plus que Bob Dylan, à qui il est souvent comparé dès le départ. Peut-être par cette différence fondamentale que Leonard Cohen vient de la littérature. Il a d'abord été reconnu comme écrivain, alors avec des textes étranges, révolutionnaires, mais il a d'abord été connu à Montréal comme poète et écrivain, et au départ il était présenté comme l'écrivain qui chantait des chansons folk. Bon, l'aspect folk a largement dépassé sa célébrité d'écrivain ensuite, mais évidemment dans ses textes, il y a cet aspect littéraire, à mon sens, on trouve ça nulle part ailleurs. Par exemple, la chanson Famous Blue Raincoat, les fans de Cohen ont chacun leur version différente pour expliquer cette chanson, qui est une lettre. En fait, le narrateur écrit à l'un de ses amis. On comprend très vite, ça c'est indéniable, qu'il y a une histoire de triangle amoureux avec une femme qu'il décrit dans la chanson. Mais en fait, Cohen dispose des petits indices sur des histoires qu'on ne connaît pas, et chacun fait son histoire, d'où l'aspect littéraire incroyable de cette chanson, qui est en plus probablement autobiographique, mais on a du mal à savoir à quel point, puisque le titre, c'est le nom de son imper bleu qu'il a acheté à Londres. Tous ses fans le savent, il le portait régulièrement.
Tu imagines qu'il serait intéressant d'écrire des films à partir juste d'une chanson de Leonard Cohen, par exemple ?
Je pense qu'avec cette chanson de 3 minutes, si je dis pas de bêtises, on pourrait imaginer un polar, parce que le narrateur qui écrit, à un moment de la chanson, il parle à son ami en l'appelant mon frère, mon tueur. On imagine des histoires que Cohen a probablement lui-même imaginé, ou pas. En tout cas, ça nourrit l'imaginaire pour pouvoir écrire. Il me semble pas qu'il y ait eu de polar d'écrit à partir des chansons ou des créations de Leonard Cohen, mais je pense que ce serait intéressant. Il parle très souvent de tueur. Alors, ses autres thèmes de prédilection, c'est évidemment l'amour, le sexe, le bouddhisme, la méditation. Enfin, c'est beaucoup, un univers très particulier.
Des chansons d'amour et de haine, donc, dans cet album.
Oui, d'ailleurs, c'est le nom de ce recueil. C'est son troisième disque et c'est l'un des plus sombres.
On parle de voyages musicaux hein, dans cette discussion avec Lionel. On parle d'aller-retour entre histoire et musique, littérature et musique. Et bien là, on va parler de voyages au sens propre. Et puis, on va t'accompagner peut-être du côté du Brésil, mais en passant par l'Irlande.
Alors oui, on va complètement changer d'univers. Effectivement, j'ai choisi ce disque de George Benn parce que au début des années 2000, j'ai eu la chance de partir travailler en Irlande. Là aussi, je suis pas le seul de ma génération à l'avoir fait, mais moi, je travaillais pour une compagnie aérienne. Alors aujourd'hui, on le crie pas forcément sur tous les toits, mais je bénéficiais des avantages de vol qui faisaient que je payais quasiment rien du tout pour pouvoir voyager. Et pour quelqu'un comme moi qui est fan de musique et notamment qui m'ouvrait à l'époque de plus en plus au son de ce qu'on appelle les musiques du monde, c'était une opportunité incroyable. J'ai pu voyager et réaliser des voyages qui étaient essentiellement orientés vers la musique et j'ai notamment été deux fois à Rio. C'est une époque où j'ai commencé à acheter des vinyles, ce qui n'était pas le cas avant, mais je rappelle aux auditeurs qu'au début des années 2000, le vinyle était au fond du trou, il n'y avait plus grand monde qu'on achetait, et quand on tombait sur un disquaire qu'on vendait, on pouvait en acheter à des prix défiant toute concurrence. Et c'est par ce biais que j'ai acheté des disques de George Benn. Et bien qu'il soit connu, je suis certain que beaucoup de gens connaissent George Benn en France. Je continue de penser qu'il est sous-estimé parce que quasiment tout ce qu'il a enregistré entre 1965, 60, 65 et 1985, ce sont absolument que des chefs-d'œuvre. Alors qu'aujourd'hui, souvent, on retient de lui que quelques hits qu'il a composés. Et à mon sens, c'est même pas ses meilleurs morceaux. Il a vraiment enregistré des chefs-d'œuvre absolus, surtout dans les années 70.
A banda do Zé Pretinho chegou. Tristeza pra correr, peça a banda pra tocar, que todos nós dançamos com você. Mistura bumbo com violino, pandeiro, cubica, trombone, ganza, guitarra e violão. E salta de banda pra gente ver, que nós queremos aprender com você. Com você, hey! Com você, hey! Com você, hey! Com você, hey! Com você, crioulo rei, crioulo, crioulo rei, crioulo. A banda do Zé Pretinho chegou para animar a festa.
près du funk brésilien et bien de la Biguin. On était au Brésil tout à l'heure avec Jorge Ben, et puis là on montait aux Caraïbes avec et bien un extrait d'un album d'or de la Biguin. Carrément, elles sont très importantes pour notre invité du jour dans Champ Libre, Lionel Bénard, c'est ses musiques des Antilles, mais pas seulement, d'ailleurs aussi des musiques d'outre-mer, les musiques ultramarines, pour reprendre le nom de ce bouquin que tu avais fait paraître aux éditions Le Mot et le Reste en 2022. Un néfaste en édition pour toi, parce qu'il y avait deux livres cette année-là. Celui-ci, plutôt un guide des trésors discographiques des Caraïbes, Océan Indien et Pacifique. Donc, vous voyez, pas seulement les Antilles. Et puis, on l'évoquera un peu plus tard, sans doute, La Mortelle Grenouille, qui est plus un roman, mais où les éléments historiques arrivent en plein à travers notamment le jazz hot en Bretagne et avec l'occupation en même temps. Bon, on y revient tout à l'heure. Émission où on va dans plein d'endroits différents, évidemment. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle soit avec toi, cette première émission de la saison 2 dans Champ Libre A. On entendait un disque très important avec peut-être un genre musical que tu as découvert de manière plus ou moins fortuite, ou tu es vraiment allé chercher la musique des Antilles.
Alors, pour celle-ci, vraiment, c'est plutôt fortuit, en fait. J'étais en voyage chez des amis en Martinique et je dois à ma compagne... je suis assez chanceux en termes de recherche de disques, mais là, on passait à Fort-de-France devant un disquaire, mais il avait de disquaire que le nom, parce qu'il y avait... c'était un petit stand avec très peu de disques, ce qui fait que j'ai abandonné et ma compagne m'a dit « Non, mais retourne le voir, on a un peu de temps, il y a peut-être des vinyles autre part », et je pose la question à ce disquaire qui paraissait peu avenant en départ, s'il avait autre chose que les maigres CD qu'il avait devant lui. Et puis étonnamment, comme dans un film, il me dit « Bah écoutez, j'en ai plein derrière, mais ça va peut-être pas vous plaire, parce qu'ils ont pris l'eau ». Alors je sais pas ce qui s'est passé chez ce monsieur, mais il y a peut-être eu un ouragan, où j'ai du mal à imaginer, mais il m'emmène à l'arrière de sa boutique et dans l'arrière-salle, il y a un énorme stock de vinyle qui était effectivement abîmé sur les pochettes. En assez peu de temps, j'identifie des pochettes qui me plaisent, des artistes que je connais déjà de nom, j'émerge avec une quinzaine de disques en lui demandant combien il m'en coûte, et il me propose 10 euros, ce que somme totalement incroyable quand je me remémore ces disques que j'ai découverts. Et donc, c'est à peu près au même moment, le hasard fait bien les choses, que je m'intéresse à Rennes, à cette histoire du Hot Club de Rennes, notamment aussi grâce au travail de mon ami Guillaume Michelet, avec qui j'ai créé le label. On s'engage tous les deux dans des recherches sur l'histoire de ce hot club qui est né pendant l'occupation à Rennes. Alors le lien entre les deux, c'est que il y a des musiciens martiniquais qui participent au Hot Club de Rennes. Robert Mavounzi, qu'on vient d'entendre jouer du saxophone, a joué à plusieurs occasions pour le Hot Club, notamment à ce qu'on appelle aujourd'hui la salle de la Cité. Et puis le disque là recèle d'un pianiste aujourd'hui éminemment célèbre dans le monde du jazz, qui s'appelle Alain Jean-Marie, et qui s'est découvert en jouant dans ses premiers disques de Biguin. Et du coup, chez moi, ça fait naître une passion durable, à la fois pour la Biguin, mais aussi pour les premières années du jazz.
Ping-pong permanent hein, dans cette émission, vous l'avez compris, de toute façon, c'est le principe. Et c'est pour ça que peut-être sortent la même année ces deux ouvrages de ta part, évidemment, puisque l'un alimente l'autre, et réciproquement. On peut revenir peut-être à la partie plus romancée de ton occupation d'écrivain, occupation de manière sans jeu de mots, évidemment. Mortelle Grenouille, eh bien, on y retrouve donc cette passion pour le jazz, pour le Hot Club de Rennes par exemple, et puis aussi un personnage qui est à la fois musicien et fait de la recherche en histoire de l'art. Qui ça peut-il être? Bon, toi tu n'es peut-être pas musicien, ou si tu l'es.
Non, je ne suis pas du tout musicien. Et en fait, nombreux ont été les lecteurs qui ont eu l'impression que c'était un peu un portrait inversé, ce qui est sans doute le cas pour certains aspects, mais volontairement, je lui ai donné des traits physiques ou alors certains aspects qui ne sont pas du tout les miens. Mais oui, je me suis inspiré de mes recherches en histoire de l'art et ma passion pour la musique pour essayer d'inventer une histoire qui puise évidemment dans l'histoire puisque ça se passe pendant l'occupation. Et en fait, en découvrant un sculpteur espagnol qui a réellement existé en Andalousie, au départ, j'avais réellement l'envie plutôt de faire des recherches classiques et puis sortir un article qui serait paru dans un journal spécialisé. Et très rapidement, je me suis dit que j'avais de quoi nourrir une histoire au contraire fictionnelle, et je me disais que c'était peut-être assez nouveau de faire un type d'histoire policière mais intégrant un peu de l'histoire de l'art fictionnel, parce qu'en fait j'ai inventé à ce sculpteur tous les vides de sa vie qu'on connaissait pas. Il y en a beaucoup, je les ai remplis à travers cette enquête. C'est une histoire policière, mais il n'y a pas de policier, c'est un roman de type policier, mais qui est une excuse pour découvrir deux univers, celui du jazz pendant l'occupation à Rennes et celui de la sculpture pendant la période de la fin du Moyen-Âge.
Quant à l'autre ouvrage que je cite à nouveau sur ces musiques d'outre-mer, des Caraïbes, océan Indien et Pacifique, là, le champ, il est vaste. Tu racontes les histoires des artistes que tu choisis de mettre en avant, mais pas la grande histoire non plus dans laquelle ils sont embarqués.
L'aspect historique m'intéresse énormément, mais c'est plus là même. Là, c'est plutôt l'histoire de courants musicaux, parfois un peu oubliés, comme la Big In. Je rencontre peu de gens qui me disent être passionnés par la Big In, mais c'est aussi le cas des musiques du Pacifique. Enfin, ça a été l'occasion d'une enquête assez longue pour les domaines que je maîtrisais moins. J'ai rencontré beaucoup de gens. Et ce livre aussi, il venait conclure un projet que j'avais eu 10 ans auparavant. En fait, au moment où je me passionnais pour la musique de La Réunion, je suis parti à La Réunion pendant 3 mois, où j'ai passé mon temps à interviewer des musiciens. J'avais pour projet avec un ami de d'écrire un livre qui aurait été à la fois un récit de voyage orienté vers la musique. Malheureusement, pour diverses raisons, j'ai jamais pu le terminer, mais j'ai pu faire des recherches importantes sur la musique réunionnaise.
Vous retrouverez des notices sur des disques que tu juges importants et qui le sont et qui sont parfois un peu difficiles à trouver, pas forcément réédités.
Alors j'ai essayé de faire un espèce de mélange entre de disques faciles à trouver, notamment sur les médiums actuels tels que Internet, avec des compilations. Par exemple, dans ce qui concerne La Réunion, j'ai été en contact avec des DJ réunionnais qui ont sorti des compilations qui sont assez faciles d'accès. Mais je reconnais qu'il y a certains disques, notamment antillais, qui sont pas faciles à trouver, mais je me suis mis à la place du lecteur. Pour moi, il fallait que le lecteur, un peu comme moi je l'ai fait avec le même type de livre avant, on commence par des choses assez faciles d'accès et puis on essaie de trouver le Graal, le disque difficile qui peut aussi un jour être réédité. Là je pense par exemple au pianiste, claviériste martiniquais qui s'appelle Marius Cultier, qui est très très important pour les martiniquais, et malheureusement ces disques sont très très durs à trouver ou alors très chers.
Vous retrouverez donc de la Big In, du Maloya, du Sega et beaucoup d'autres musiques de provenance ultramarine et de genres différents, quoi. On va vers la fin de cette discussion avec Lionel Bénard aujourd'hui dans Champ Libre A, avec l'évocation, on va dire concomitante, de Alan Lomax, l'ethnomusicologue bien connu, et puis au fait ce label que vous avez créé, 3615 Records. J'y reviens un peu pour signaler le fait que vous avez entrepris quand même un travail nécessaire de redécouverte de ce Hot Club de Rennes. Alors c'est pas l'ethnomusicologie peut-être, mais ça s'approche quand même d'un travail que Lomax a fait lui en allant capter des sons dans le sud des États-Unis pour faire subsister, en tout cas les garder pour le futur, ces musiques folk, country, blues. Et là, ben, on le garde aussi pour l'avenir, grâce à 36-15 Records, ce groupe-là.
Alors oui, j'aurais pas la prétention de me comparer à Alan Lomax, mais en tout cas, avec Guillaume, quand on a créé ce label, donc Guillaume Michelet, mon partenaire sur le label, l'idée c'était effectivement surtout de faire revivre et renouveler un intérêt pour des musiques qui ont pu marquer. Alors on reste quand même ancré sur la ville de Rennes ou le territoire en Bretagne, mais oui, notre idée c'était d'associer histoire, patrimoine et musique. C'est d'ailleurs, il me semble, officiellement les statuts de notre association. Et ça commençait par la réédition qui nous a totalement passionnés. Ça nous a pris quand même pas mal de temps. Mais là où il y a peut-être un tout petit point commun, je suis d'accord, c'est qu'on a été rencontrer des gens dont les parcours étaient un peu oubliés. On a vraiment eu de la chance parce que la plupart sont décédés peu de temps après. Donc ça, il y a là-dessus, c'est totalement vrai. Il y a une idée de passation. Si jamais on l'avait pas fait, finalement, la mémoire du Hot Club aurait probablement été oubliée. On a été bien inspiré, il me semble, de le faire. Et en tout cas, ça nous a vraiment passionnés. Et ça nous a pris beaucoup de temps aussi.
Si on n'entend pas aujourd'hui dans cette carte blanche un titre du Hot Club de Rennes, il est disponible dans les bibliothèques de Rennes, dans plusieurs d'entre elles en tout cas.
Oui, au champ libre, il est disponible, mais oui, il y a pas mal de bibliothèques qui l'ont acheté. Pour être tout à fait honnête, on avait peur de pas avoir beaucoup de succès avec nos enregistrements de 1947 issus de la Deuxième Guerre mondiale, et là, ça a été l'inverse. On a eu la plupart des disquaires ont joué le jeu très bien, même ils l'ont diffusé, et puis du coup, on a quasiment tout vendu, et donc parmi les gens qui l'ont acheté, il y a des bibliothèques à Rennes et dans la région.
Et parmi les gens qui l'ont écouté et acheté, il y a des musiciens de jazz qui ont eu envie de faire renaître un Hot Club à Rennes.
Oui, alors si je dis pas de bêtises, c'est par le biais d'un cadeau, mais effectivement, faut peut-être dire que en dehors de la réédition, il y a un livret assez complet à l'intérieur avec toute l'histoire et des documents, des photos, des documents d'époque qui racontent l'histoire. Et donc, un des musiciens a été particulièrement touché et s'est dit qu'il fallait faire renaître cette histoire, et le Hot Club est né à nouveau, et évidemment on en est particulièrement content.
Très chouette histoire, sans doute pas aussi folle que celle de Francis Podras avec Bud Powell, mais belle histoire en tout cas. Une histoire incroyable, ou en tout cas géniale à vivre et à lire. En tout cas, c'est celle d'Alan Lomax, dont tu as cette somme, hein, devant toi. Ce livre, Le pays où naquit le blues, par Alan Lomax donc, qui raconte quoi? Ces recherches de musiciens pour les faire passer les siècles, en fait, les garder pour le
ouais,
futur.
C'est un peu ça. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on m'a demandé de choisir des documents dans l'étage 2 des Champs Libres et que j'ai vu ce livre, j'ai pas pu m'empêcher de le choisir parce que c'est un livre que j'ai lu et qui m'a passionné. Mais au-delà de ça, je pense que Alan Lomax a une importance considérable dans l'histoire de la musique populaire. Ça va peut-être paraître exagéré ce que je dis, mais je pense sincèrement que s'il n'avait pas enregistré les bluesmen dans le profond sud, lui il venait son père était ethnomusicologue, lui a pris la suite et est parti d'abord avec son père, puis ensuite seul enregistrer les bluesmen jusque dans les prisons de l'état du Mississippi, du Texas, et en fait ces disques de blues, ce sont eux qui ont nourri l'intérêt pour le blues qui a donné naissance au rock and roll. Et également, Alan Lomax était quelqu'un qui était politiquement assez orienté à gauche. Et dans les années, les décennies qui ont suivi, il y a pas mal d'ethnomusicologues qui ont un peu pris son modèle. Par exemple, je parlais de la musique de La Réunion. Au départ, les premiers disques de Malouya, ils ont été enregistrés par des intellectuels proches du Parti communiste. Et donc, cet Alan Lomax, il a semé des petites graines qui ont complètement changé la musique que celle qu'on écoute encore aujourd'hui.
Tu le recommandes chaudement, ce livre?
Oui, c'est une traduction par un des grands spécialistes du folk en France qui s'appelle Jacques Vassal, et c'est une superbe édition. Il y a un CD à la fin avec quelques enregistrements. Alors, c'est vraiment une sélection parce que Alan Lomax, il a enregistré partout. Il a même enregistré aussi d'ailleurs en Guadeloupe ou en Martinique. C'est quelqu'un qui a été exilé du fait du macartisme et de la chasse aux sorcières aux États-Unis, ce qui fait qu'il est parti enregistrer en Europe, dans les Balkans, en Espagne, enfin vraiment un parcours incroyable. Et on lui doit une somme considérable d'enregistrements qui n'ont pas tous été édités, mais qui sont conservés aux États-Unis, à Washington, il me semble.
Mais il me semble, Lionel Bénard, que depuis qu'on parle de musique, on a parlé surtout de musique du passé, en fait. Et même quand tu étais tout jeune, la musique que tu écoutais, c'était de la musique du passé avec Pink Floyd, on les entendait. Tu écoutes quand même des choses contemporaines et faites au XXIe siècle ?
Alors j'ai l'impression que je suis quand même souvent tourné vers le passé en ce qui concerne la musique, mais quelquefois j'essaie quand même de me mettre de trouver des choses contemporaines qui me plaisent. Ça a été le cas à l'époque du trip-hop des années 2000, où j'étais un fervent suiveur des trans musicales, par exemple, où je me suis passionné pour des choses récentes. Et puis plus récemment, là, je voulais parler d'une découverte qui est, il me semble pas très médiatisée, mais c'est plutôt dans l'univers du jazz, mais un jazz extrêmement original qui vient d'Afrique du Sud. Ça c'est un sujet qui est peu connu en France, mais il y a une scène sud-africaine qui est exceptionnelle depuis les années 50 en Afrique du Sud. Et pour le coup, ça continue à donner des choses très vivantes et très nouvelles. Là, c'est un guitariste qui s'appelle Sibuksile. Où j'ai du mal à dire son nom.
Sibusile Xaba.
Merci.
Redis-le peut-être.
Sibusile Xaba, je prononce sans doute mal, et qui a une manière de jouer et de chanter qui est totalement singulière. Elle puise aussi une tradition du jazz sud-africain qui a très peu de... Il s'est complètement différencié du jazz américain. On pourrait presque lui donner un autre nom au jazz sud-africain, mais on est resté sur jazz sud-africain. Et si les auditeurs cherchent des musiques originales liées au jazz, je recommande l'Afrique du Sud chaudement.
On va terminer avec donc ce titre. Si vous retrouverez bien sûr les références de tout ce qu'on a entendu, ce que tu nous as présenté, aussi bien la musique que les livres, sur canalb.fr et puis sur le site des Champs Libres. Pour terminer tout de même, rendez-vous bientôt pour quelques conférences que tu donneras sur la musique, sur des musiques peut-être pas encore bien explorées, il me semble.
Oui, avec un ami, on a créé une association qui s'appelle Les Voyages Musicaux, où on s'est donné pour objectif, ça nous touchait beaucoup, d'essayer de faire parler, de faire découvrir des musiques d'ailleurs pas forcément reconnues, de moins en moins on trouve même, et du coup à l'occasion du Grand Soufflet on va donner une conférence sur la musique de la Réunion à Saint-Gilles et une autre sur la musique de la Colombie au Tabor, sur le village du Grand Soufflet.
Peut-être un jour, dans quelques temps, tu iras vers ces régions-là pour nous les faire découvrir, soit à travers purement la musique ou en amalgamant des histoires de fiction avec la véritable histoire et avec la musique. Qui sait ?
J'aimerais bien continuer à prendre le même personnage de mon roman et de le faire effectivement voyager vers des contrées musicales.
Merci beaucoup Lionel Bénard. Retrouvez donc les disques de 3615 Records sur internet et dans les bibliothèques. Les bouquins et les CD dont on a parlé à la bibliothèque des Champs Libres. Et puis l'émission Le Grand Tout se termine. Et vous donne rendez-vous pour un numéro 2 de la saison 2 de Champs Libres A. Et bien dans un mois. Merci beaucoup.
Merci.
Wally Mala, pe
eu calue
e go pe
e cabe
e go pe
e matagale
e mpo vale 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 intizi e go pe e cabe e go pe e matagale ta
Pour terminer cet épisode 1 de la saison 2 de Chant Libre A, je remercie chaleureusement notre invité Lionel Bénard et puis nos complices à la bibliothèque des Champs Libres, Antoine Blanchet et Clarisse Mérour, qui ont accompagné la bonne réalisation de cette visite aux Champs Libres et puis de cette diffusion sur Canal B. On se retrouve quant à nous lundi pour une nouvelle semaine dans Le Grand Tout. Bon week-end sur Canal B ou ailleurs. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.
Oh yeah.